Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, Les sciences coraniques, de la collection Les sciences islamiques.
A'ouzou billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa s-salatu wa s-salam ala ashraf al-mursalin, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa na'ouzou billahi min shurur anfusina wa min sayyiat a'malina, من يهد الله فهو المهتد ومن يدلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد.
Avec ce deuxième cours concernant les sciences islamiques, après avoir fait une introduction générale, il paraît effectivement immédiatement nécessaire et important de commencer par les premières sciences, celles qui pour nous sont essentielles parce qu'elles sont au cœur de toute la configuration des sciences. Elles concernent le livre sacré, elles concernent le livre qui, pour les musulmans, effectivement, est le livre qui est chargé de les guider dans la fonction première, l'wahy, donc qui est une descente révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, est chargé de les guider, comme furent d'ailleurs toutes les autres révélations, puisqu'il nous est dit dans le Coran, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et s'il vous vient de par moi une guidance, eh bien celui qui suivra ou ceux qui suivront ma guidance, ils n'auront pas à avoir peur et ils ne seront pas attristés. Cette dimension de la guidance, فَمَنْ تَبِعَ هُدَيَّ, celui qui suit ceux qui suivent ma guidance, pour nous, dans le fait de suivre cette guidance, c'est bien entendu de la comprendre, de comprendre le sens de cette révélation. Et c'est ce pourquoi, comme nous l'avons expliqué, au fil du temps, par la perte de la proximité du prophète, par la perte de la proximité même de la langue arabe, il est apparu nécessaire aux savants, très très vite finalement, dès le deuxième siècle après la mort du prophète, eh bien, de fixer un certain nombre d'éléments, de clarifier, de catégoriser un certain nombre d'approches par rapport à la question de cette compréhension. Donc, ce que nous avons par rapport à cette guidance, par rapport à cette volonté de la comprendre, suivre la guidance, se suivre cette guidance impose bien entendu el-fahm, c'est-à-dire la compréhension, el-ilm, c'est-à-dire bien entendu la connaissance, ou al-ilm qabl el-fahm, c'est-à-dire la connaissance avant ici la compréhension. Ce que nous pouvons mettre en évidence, c'est que quand nous ouvrons, nous n'aurons pas, bien entendu, en l'espace de 45 minutes, la possibilité de donner une étude approfondie. C'est donc ici une première approche, une sorte d'introduction à ces sciences. Eh bien, nous nous apercevons, si nous ouvrons les ouvrages classiques concernant Ulum al-Qur'an, nous en dirons un mot tout à l'heure, nous apercevons qu'il y a véritablement une quantité de chapitres et de sous-chapitres impressionnantes. La première des compréhensions dans les chapitres que je cite comme ceci, simplement pour donner une idée de ce que peuvent être ces sciences islamiques. Vous avez des chapitres ou un chapitre en général d'introduction sur ce qu'est le Coran, ensuite un chapitre sur l'expression de la compréhension de ce qu'est la révélation, de comment elle s'est réalisée. Il y a également un chapitre sur la distinction entre la période mécoise et la période médinoise, puis ensuite un chapitre qui concerne la chronologie, puisque l'on sait que le Coran tel qu'il est constitué maintenant ne suit pas l'ordre chronologique. Donc il y a une présentation de l'ordre chronologique. Il y a également une présentation des causes de la révélation, ensuite des étapes et des modalités de cette révélation, les modes de révélation, et tartib, c'est-à-dire l'organisation interne, les différentes lectures, al-qara'a 'ala sab'ati ahruf, c'est-à-dire la lecture sur les sept façon de lire, nous y reviendrons, les commentaires, puis ensuite tout ce qui concerne effectivement les particularités de langue, comme ce qui est évident dans les versets révélés et ce qui est sujet à interprétation, comme al-muhkam, al-mutashabih, et puis ce qui est général et ce qui est plus précis, al-am wal-khas, ce qui a été abrogé ou ce qui est abrogeant, al-nasikh wal-mansour, ce qui est littéralement dit et ce qui est compris, c'est al-mantouq wal-mafhoum, également, qui, tous ces éléments-là ont été classés par les savants pour permettre justement une approche critique de compréhension de cet élément de la révélation, il y a encore des chapitres qui traitent des miracles, des chapitres qui traitent de l'exemple, des exemples dans le Coran. Il y a également des chapitres qui traitent des histoires, des différentes parties du Coran, également des chapitres qui traitent des différents commentaires et des interprétations, et puis d'autres encore que nous n'avons pas le temps de citer, mais ceci pour nous montrer, cela pour nous rappeler ces quelques différentes catégorisations, simplement pour nous montrer que cette science est une science qui finalement a beaucoup d'entrées, beaucoup d'exigences également, parce que chacun de ces chapitres nécessite bien entendu une précision, une bonne compréhension. Sur la base de ce travail, l'ensemble des autres sciences vont bien entendu s'appuyer. Pourquoi ? Parce que à partir des sciences du Coran, on va avoir la bonne compréhension aussi de ce que sont on saurait le faire, c'est-à-dire nous reviendrons sur cette science, mais l'extraction des éléments ou des règles générales qui vont permettre la jurisprudence, eh bien, nécessite bien entendu une bonne compréhension de l'armature générale du texte révélé. Donc, une science fondamentale qui touche le texte sacré, et nous allons en dire effectivement immédiatement en traiter quelques éléments, bien entendu pas tous les chapitres, mais essayer de mettre en évidence quelques-uns de ces éléments en différents chapitres, en 5 ou 6 moments qui nous permettront d'avoir une vue générale et qui permettront à celle ou celui qui le désire de pouvoir aller plus avant ensuite dans la lecture de ou la compréhension de ces sciences. Et nous aurons l'occasion, incha'Allah, de pouvoir revenir et de faire un second cours sur les sciences du Coran plus tard pour nous permettre encore d'approfondir la question. Alors, prenons d'abord, comme première partie, quelques éléments qui nous permettent de connaître la formation, ce qui fut la formation et l'histoire de la formation du Coran, à partir du moment où nous sommes au clair sur ce qu'est ce Coran. El Kitab, cette notion de kitab était déjà présente dans l'esprit de ceux qui recevaient autour du prophète, et du prophète lui-même bien entendu, il était clair pour eux que ce qui était révélé faisait partie d'un tout. Sur les 23 années, le prophète a l'idée déjà qu'il s'agit d'un livre, et le terme apparaît lui-même d'ailleurs très souvent, et même si ça ne suit pas l'ordre chronologique, au moment où l'on ouvre le Coran, dans Surat al-Baqarah, on a immédiatement A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, dhalikal kitabu la rayba fi. Ce livre, il n'y a pas de doute en lui, donc c'est déjà une compréhension claire, alors que la révélation est de loin pas terminée, et bien que nous sommes en train d'avoir la révélation d'un livre. Et ce livre-là, il est clairement pour le musulman la parole d'Allah, Azza wa Jal, qui est justement révélée en langue arabe claire au prophète, alayhi wa sallam, choisi par Dieu, Muhammad ibn Abdullah, alayhi wa sallam, en langue arabe claire, et elle est transmise par Jibril, alayhi sallam, par l'ange Gabriel, telle qu'elle est dans la forme et dans le fond, telle qu'elle est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle qu'elle a été transmise immédiatement au prophète alayhi salam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et dans cette perspective-là, pour nous, donc, c'est un livre sacré qui exprime la parole de Dieu. Et donc pas d'intervention de ce point de vue-là, ni du prophète alayhi salam, qui est considéré pour par les musulmans en l'occurrence comme un homme qui n'a fait que recevoir et transmettre sans interpréter et sans modifier. Le livre Al-Kitab a également dans le Coran lui-même, rappelons-le quand même, le Coran qui veut dire la lecture, le récit, Al-Kitab qui veut dire le livre, et nous trouvons de ce point de vue-là également d'autres noms qui sont spécifiés comme Al-Furqan, qui veut dire le discernement et qui relève justement de différents domaines, tout à la fois mystique avec cette aspiration du cœur qui trouve un discernement alors qu'elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il le perd quand elle se laisse aller aux affaires du monde au sens d'en être séduite et au sens de s'y noyer. On trouve également donc le Furqan, le discernement, on trouve Al-Dhikr, le rappel, et cela fait référence au verset du Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons certes fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs. Cette dimension aussi de ce rappel, pourquoi le rappel? Pour plusieurs raisons également, parce que le Coran rappelle les autres révélations et rappelle ce même message du tawhid, de l'unicité divine, mais également parce qu'il sert pour chacun d'entre les fidèles à se souvenir. Il est un rappel en permanence, il est ce dont on doit se souvenir, ce qui nous protège de tout ce qui est néfaste pour nous, et en même temps il permet, avec cette dimension du rappel, de nous orienter. Il est également un nour, c'est-à-dire la lumière, au sens où effectivement il est la lumière qui nous fait sortir des ténèbres, yukhrij min al-zulumat ila an-nur, c'est-à-dire il fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il est donc cette révélation de lumière, et c'est une lumière qui vient également, comme le dit Muhammad al-Ghazali, radiallahu anhu, qui met en évidence dans toute cette formulation du Coran, nurun ala nur, c'est-à-dire la lumière de la révélation venant rencontrer la lumière de ce qui est en nous, al-fitra, la lumière que Allah subhanahu wa ta'ala a mis lorsque, au début du temps, nous avons l'ensemble de l'humanité à attester de sa présence en tant que Dieu unique. Donc on a ces quelques noms, il en est d'autres, mais préservons ou retenons ceux-ci qui sont les principaux, pour nous souvenir que autour de ces noms apparaît bien entendu rayonne un certain nombre de fonctions du Coran, tout à la fois d'illuminer notre cœur, de nous rappeler, de nous permettre le discernement et d'être le livre de référence pour nous. Donc à partir de ce nom, dans l'histoire de la révélation, ce qu'il doit être dit pour nous, c'est qu'effectivement, le Coran a été révélé au prophète Aïssatou Assalam par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été révélé en 23 années, mais il y a effectivement une double descente. In anzalnahu fi laylat al-qadr. Quand il est dit dans le Coran, nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin, dit-on, ou la nuit justement qui est la 27e nuit du Coran, bien que le prophète alayhi salam ait mis en évidence le fait qu'elle était dans les nuits impaires de la dernière, les 10 derniers jours de Ramadan, mais pour nous, elle est descendue effectivement la 27e nuit du Ramadan, et elle est descendue en une fois, le Coran a été révélé en une fois, min al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire du ciel le plus élevé au ciel le plus bas, Bayt al-Izza, c'est-à-dire qu'il y a une première révélation qui s'est faite du ciel le plus élevé en une seule fois, puis ensuite, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, pendant 23 années, au prophète Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Donc on a cette double étape, et c'est comme ça qu'on doit comprendre. Les compagnons avaient demandé justement au prophète alayhi salatu wassalam d'expliquer comment il pouvait être dit « in anzalnahu fi laylat al-qadr », c'est-à-dire nous l'avons fait descendre. Comment comprendre qu'il fut révélé en une nuit alors qu'ils assistaient eux-mêmes à une révélation plusieurs années. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut savoir, c'est ce double moment de la révélation, et puis également comment la révélation s'est faite au prophète alayhi salam. Il y a plusieurs types de révélations, mais ce qu'on sait pour ce qui concerne le prophète alayhi salam, c'est qu'il y avait en tout cas deux façons fondamentales particulières de révélation. La première était justement le tintement de clochette que le prophète alayhi salam entendait et qu'il recevait comme ceci, et que les compagnons ont pu rapporter justement qu'il était dans un état de contrition intellectuelle, en suant même dans les périodes de froid et en étant en prenant du poids, puisque l'un des compagnons disait qu'il a pensé, même au moment où le prophète alayhi salam recevait la révélation, que ses jambes allaient se briser. Et puis également par l'intermédiaire de Jibril qui lui révélait les choses de cette façon, mais également il est rapporté que Jibril alayhi salam apparaissait sous forme humaine et venait transmettre. On a justement, en l'occurrence, dans le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, célèbre sur l'islam, l'iman ou l'ihsan, on a justement cette présence de Jibril qui apparaît sous forme humaine également, et qui vient enseigner au prophète sa religion, et en particulier qui vient également lui transmettre une révélation qui est confirmée justement par le Coran, dans cette idée également que il ne prononce rien de par lui-même, il prononce tout ce qui lui est révélé de par la révélation directe, l'inspiration directe. C'est ce qu'on trouve dans Sourate An-Najm, la Sourate 53, au son tout début, dans le verset 3, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Votre compagnon n'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur, ça c'est le verset qui précède, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est révélée, que lui a enseigné l'être à la force prodigieuse, et que les commentateurs, et le Mufassiroun ici, réfèrent à Jibril alayhi salam. Donc, cette idée que rien de spécifiquement humain, aucune intrusion humaine dans cette révélation, elle est le propre fait d'une révélation immédiate au prophète alayhi salam, qui va se dérouler sur 23 années, et dont on sait que justement la première révélation, c'est celle que l'on trouve dans Sourate Al-Alaq, la Sourate 96 du Coran, et qui commence par بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence ou d'un caillot de sang. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, par le qalam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait point. Donc ce premier verset dont nous avons déjà vu dans le cours qui concernait la vie du prophète alayhi salam, telles quelles furent les circonstances de sa révélation, jusqu'à, pour la majorité des savants, le verset 281 de la Surat al-Baqarah, de la Surat 2, qui exprime la fin. Alors il y a des divergences, pour certains c'est la sourate qui commence par Idha jaa nasrullahi wal fath, le jour où tu vois la victoire de ton le jour de la victoire et l'ouverture, mais la majorité relève que c'est ce verset de sourate al-Baqara qui est le dernier et qui dit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, et craignez un jour où vous reviendrez tous auprès de Dieu et chaque être sera justement récompensé en ce qu'il aura gagné, et vous ne serez pas injustement traité. Donc, ces 23 années qui vont de cette révélation à celle-ci sont importantes parce qu'elles marquent une progression dans la révélation, et nous allons en dire un mot dans les autres chapitres de Ulum al-Qur'an. On s'est posé la question de savoir pourquoi graduellement, pourquoi ce Coran a-t-il été révélé graduellement ? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cela. La première, c'est bien entendu l'idée d'une mémorisation plus facile et puis d'une emprise sur le cœur des compagnons plus grande, mais également par rapport au fait de renforcer cette foi, cette spiritualité, la répétition, la continuation de cette révélation au cours du temps a permis effectivement d'ancrer chacune de ces révélations, chacune de ces interventions de façon plus importante encore. L'autre élément, c'est effectivement la prescription d'un certain nombre de lois dans la durée et dans la progression par étapes pour qu'elles soient mieux comprises et pour qu'on évolue. Et puis pour nous aujourd'hui, c'est tellement important, cette notion d'une évolution par rapport au temps, d'une progression par rapport aux circonstances. Et il faut savoir également que ces révélations furent souvent des réponses à des situations sociales spécifiques. Et en fait, ce sont des réponses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'absolu à parfois des événements très relatifs. Et dans tout ce qui sera la compréhension du Coran, mais également la compréhension de Rasoul al-Fiqh, cette dimension est très très importante, de la circonstance qui permet de comprendre l'absolu de l'orientation du qasd, c'est-à-dire de l'objectif même de la révélation, à partir du moment où on en connaît le sabab, c'est-à-dire la cause. Cela, c'est une autre science qui se dégage de cela, mais pour nous, il y a toutes ces dimensions qui viennent comprendre, faire comprendre justement que le Coran a été révélé graduellement, tout à la fois pour renforcer le cœur, pour renforcer la mémoire, pour renforcer la bonne compréhension, al-fahm al-amiq, c'est-à-dire la compréhension très très profonde de ce qu'était cette révélation. La deuxième étape par rapport à cela, que nous devons aborder, c'est comment le Coran, à partir de ces différentes révélations qui furent éparses sur 23 années, comment est-ce qu'on en a constitué un livre et comment est-ce que ce livre a été constitué? Alors la première des choses que nous rapporte Suyuti dans le livre, dans son Itqan, c'est-à-dire la maîtrise des sciences islamiques, Itqan Ulum al-Qur'an, un livre très très célèbre, il met en évidence un certain nombre d'étapes et donc relevant en tout cas, pour faire court dans cette introduction, trois étapes en tout cas. La première, c'est une première compilation, une première mise en perspective de l'ensemble des éléments révélés à l'époque même du prophète Aïssatou Salam, qui, alors qu'il recevait ses révélations, les transmettait à son compagnon qui tout à la fois les mémorisait et les retranscrivait sur des eaux de meplates et sur tout ce qu'il pouvait trouver comme matière où il pouvait écrire. Mais donc il y avait déjà, le prophète quand il recevait Aïssatou Salam, quand il recevait cette révélation, indiquait où devait se situer tel passage nouvellement révélé par rapport à tout ce qui déjà avait été révélé. Donc il y a, en même temps qu'il reçoit une révélation, une structuration qui prend forme par rapport à cette révélation, qui ne suit pas l'ordre chronologique, mais qui suit un ordre très très spécifique que lui indique Jibril alayhi salam au fil justement de ces révélations. Donc, on a justement cette visite une fois par année de Jibril alayhi salam qui vient réviser pendant Shahr Ramadan l'ensemble de ce qui déjà a été révélé. Jusque la dernière visite de Jibril alayhi salam qui viendra cette fois-ci deux fois pendant Shahr Ramadan et qui fait dire justement qui fut un des signes pour le prophète alayhi salam que sa mission était à son terme et qui en l'occurrence par rapport à la structuration définitive du Coran est une confirmation pour les musulmans qu'il est tel qu'il devait être, non pas en suivant l'ordre chronologique, non pas en suivant l'ordre d'un certain type d'événement, mais avec une volonté très spécifique de se constituer tel que Jibril l'a enseigné au prophète Aïssatou Salam. Vient un deuxième moment de la compilation, après que ceci soit resté et que les compagnons du prophète Aïssatou Salam, pour beaucoup d'entre eux, connaissaient le texte par cœur et qu'ils en aient écrit ce qu'ils en avaient sur tout type de matériaux, que ce soit des omoplates de chameau ou d'autres feuillets, et bien dans cette perspective-là, après la mort du prophète alayhi salam, on sait que les tribus du sud vont refuser de payer à Abu Bakr radiallahu anhu, qui était devenu le nouveau calife, lui payer la zakat. Il refusait de le faire. Et donc il va y avoir une bataille, Abu Bakr va refuser cette décision des gens du sud et il va y avoir la bataille de Yamama. Et durant cette bataille, on dit que plus de 70 connaisseurs du Coran, de ceux qui le connaissaient par cœur, vont mourir. Et ce qui va pousser Abu Bakr radiallahu anhu de réunir l'ensemble des feuillets, suhuf, pour pouvoir constituer un mushaf, c'est-à-dire une réunion de tous ces feuillets pour pouvoir avoir un Coran qui soit dans sa totalité retranscrit et il sera remis à Hafsa qui en aura la garde. Donc on a une deuxième étape donc ici à l'époque même de Abu Bakr radiallahu anhu qui va préserver ce Coran par écrit cette fois-ci à cause d'une première circonstance historique qui met très clairement en évidence le fait qu'il se pourrait que les connaisseurs du Coran soient en si petit nombre que l'on n'en ait pas de traces écrites. Donc c'est une première étape. Ensuite on a la troisième étape relevée également par l'ensemble des traditionnistes qui est celle de l'époque d'Othman alayhi salam en 653 qui lors d'une campagne en Arménie se rend compte que de plus en plus dû à l'expansion et vous voyez que cette expansion de l'islam a provoqué beaucoup de réflexions et en tout cas a vivifié l'élaboration des sciences islamiques et en particulier bien entendu ce qui concerne le Coran aperçu qu'il y avait beaucoup de lectures différentes et que même parfois au-delà des lectures qui étaient reconnues et sur lesquelles nous reviendrons on commençait à perdre le sens exact et la compréhension exacte et la prononciation exacte, et que parfois cela pouvait provoquer dans certaines régions des modifications. Et donc il décide de revenir justement à ce mushaf qui était dans la possession de Hafsa, et de justement, à partir de ce texte de base, de faire des copies qui vont être distribuées dans l'ensemble du monde musulman de cette époque-là, en demandant à ce que soit détruit tout autre texte. Il reconnaîtra celui, par contre, de Ibn Mas'ud, avec sa prononciation, qui lui était justement un compagnon du prophète, qui était reconnu et par sa lecture et par sa science. Et donc, sinon, il y a une diffusion de ce texte de référence qui va devenir, pour nous les musulmans, le texte de référence tel que celui que nous le connaissons, avec bien entendu les 7 lectures possibles et qui sont reconnues traditionnellement, même s'il en eut d'autres et qui d'autres ne furent pas reconnus parmi les 14 en fait qu'il y a eu et que l'on a recensé. Bien, on a ces trois moments-là, et ces trois moments-là marquent, à l'époque du prophète a.s., avec Jibril et sous l'autorité de Jibril a.s., eh bien, la première constitution du Coran tel qu'il nous est apparu, puis ensuite la formulation de ce Coran comme un mushaf, écrit justement après qu'il y ait eu ce trouble, après la bataille de Yamama, et puis ensuite Othman qui en 653, donc vous voyez, quelques 20 ans après la mort du prophète alayhi sallam, finit par diffuser par écrit justement et faire retranscrire bien entendu ce texte-là, sur la base bien entendu de personnes de référence qui étaient elles chargées justement de faire en sorte que ce texte soit un texte fidèle. Bien, ces éléments-là, il faut les connaître, parce que pour nous, en tant que musulmans, ça met en évidence une chose, c'est que ce texte est unique, et ce texte est reconnu par le monde musulman en entier comme unique, qu'il n'y a pas d'intervention humaine au sens de son contenu et de sa formulation, et que pour nous c'est une garantie, et de bien comprendre justement que ce rappel, par rapport, comme il est le dernier, par rapport aux révélations qui ont précédé et qui, selon la tradition musulmane justement, ont vu des transformations dues aux hommes, ici rien de tel pour nous. Le texte reste, est dans l'état de ce qu'il fut révélé, comme il fut révélé au prophète alayhi salam dans la première partie, donc sur les 23 années, et nous en avons un texte fidèle. Bien, comment ensuite ce texte s'est formé et quelle en est la morphologie? Eh bien, par rapport à l'étude justement de la langue en tant que telle, ce qu'il faut savoir, c'est que même au niveau de la prononciation, dans un premier temps, quand le texte a été d'abord retranscrit, il était sans point diacritique. On appelle les points diacritiques justement ce qui nous permet de savoir les prononciations A, I, U, et que les compagnons du prophète alayhi salam connaissaient de fait par cœur, puisque la première approche du Coran était un travail de mémorisation intense parmi les compagnons. Ensuite, bien entendu, il y a eu les divisions de textes qui sont en sourate et en ayat. Donc les ayat étaient telles qu'elles sont, les sourates également ont été constituées avec le temps, alors avec des titres qui leur sont spécifiques, et ce sont ensuite, on va avoir une configuration particulière avec des savants qui vont, par exemple, répartir le texte en 30 parties pour rendre sa mémorisation plus accessible, mais qui n'est pas directement ces 30 parties, ce qu'on appelle l'ajza ou les juz, c'est-à-dire la 30e, le 30e, n'est pas directement quelque chose qui était lié à la révélation, mais plutôt quelque chose que les savants dans le 2e et 3e siècle ont constitué pour pouvoir permettre une approche du Coran en 30e, en 60e, pour aider à la mémorisation et à la meilleure compréhension du Coran. Donc c'était un travail de simplement d'aide, de soutien à une meilleure révélation. Donc il y a 114 sourates dans le Coran, plus de 6000 versets, et donc en l'occurrence ces sourates qui n'ont rien à voir avec l'image soura, mais plutôt avec l'idée de rang, de muraille, dans le sens arabe, et aya qui veut dire signe. Et là également c'est un terme très très important, parce que chacune d'elles est un signe du fait qu'elle est la révélation et qu'elle est révélée par le créateur des signes. Et puis les 30 parties sont indiquées dans le Coran en texte arabe par des signets le long. Alors on a des 30e, on a des 60e et on a à l'intérieur de ces 60e des quarts, donc le quart du 60e et le 60e étant la moitié du 30e. Et on a des divisions comme ceci qui permettent, pour ceux qui apprennent le Coran par cœur ou pour ceux qui se situent par rapport à un apprentissage de longue haleine, eh bien, situe un tout petit peu des repères. Le troisième élément, par rapport au-delà de la division du texte, c'est que pour nous, le Coran est un texte qui a été révélé en arabe clair. D'ailleurs, c'est cette référence-là à la langue arabe dans sa clarté. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous en avons fait une lecture, une récitation, un Coran en langue arabe. Peut-être réfléchirez-vous. Eh bien, c'est un texte qui est en langue arabe. Il y a bien entendu à des moments donnés des mots qui apparaissent et qui sont des mots qui ne sont pas immédiatement de la langue, comme on sait par exemple que sijil est un terme qui est d'origine perse, mais qui immédiatement était accessible et compréhensible aux compagnons par la présence du prophète alayhi salam et qu'il l'expliquait dans cette perspective-là, mais la langue du Coran est la langue arabe. Le Coran, en tant que tel, n'est pas une poésie et n'est pas à comparer, selon justement les spécialistes de Ulum al-Qur'an, par rapport à la compréhension que c'est une révélation qui est descendue immédiatement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un texte poétique sur lequel on va appliquer une approche qui soit une approche identique aux textes humains. On le prend dans la réalité de ce qu'il est, en reconnaissant sa beauté, la beauté de ses images, la beauté de sa sonorité, la beauté de ses appels de son justement qui tiennent du miracle. Parce que ce qu'il faut dire, et ce sur quoi nous reviendrons, c'est que le Coran en tant que tel est le miracle de l'islam par sa langue et son contenu, par sa structure et l'évocation et l'appel du cœur qu'il y a en lui à partir du moment où on l'entend. Donc c'est une chose extrêmement importante. Donc il y a les divisions du texte, il y a également justement sa prononciation et il y a dans ce Coran également un certain nombre de récits, c'est-à-dire des récits qui sont rapportés de façon particulière, puisque le récit n'a pas un seul début, puis ensuite se termine, puis ensuite on passe à un autre récit. Non, il y a dans le Coran quelque chose de particulier, c'est que les récits, pratiquement tous les récits, sauf quelques-uns, comme l'histoire de Yusuf alayhi salam, qui n'apparaît qu'une fois et de façon assez complète dans la sourate du même nom. En général, toutes les autres histoires, que ce soit celle de Adam alayhi salam, de Moussa alayhi salam et de l'ensemble des autres prophètes, apparaissent à plusieurs reprises. Alors là, on a une double perspective, c'est que chacune de ces histoires, quand elle revient, appelle ce qui déjà l'a précédé comme un rappel, justement, pour édifier la bonne compréhension, pour rappeler. Et c'est vrai que si on lit le Coran qu'avec les yeux de l'intelligence, on se dit, bah tiens, il y a beaucoup de répétitions, comme j'ai pu une fois l'entendre dire par un étudiant qui n'était pas de confession musulmane et qui lisait ceci avec un regard très très intellectualisant. Pour le musulman, cette répétition est édifiante, cette répétition confirme, comme dans l'approche affective et émotive, la répétition enracine la dimension profonde de l'histoire qui est racontée. Et bien ici, nous avons de la même façon un retour de ces récits de façon extrêmement édifiante. Si l'on passe maintenant dans le prolongement de ces parties, donc après la formation, après la forme et la morphologie, et que l'on sait justement que les divisions telles qu'elles, comment elles se situent, la compréhension de cette langue arabe, et puis les récits tels qu'ils apparaissent. Et alors là, bien entendu, tout ce que nous venons d'en dire reste à la surface de l'ensemble des études spécifiques de chacun de ces éléments, parce qu'il y a justement, de ce point de vue-là, un travail d'approfondissement à faire. On en vient à une partie ici, qui est une partie particulièrement importante, qui est la partie de la compréhension du texte en tant que tel. C'est-à-dire que après la compréhension de la forme et de la morphologie, même qu'il y a nous ne l'avons pas dit, mais c'est évident par rapport à cela, toute la dimension grammaticale du texte, toute la dimension doit partir du moment où l'on dit que c'est en arabe le clair. Il y a bien entendu la compréhension du nahw et du sarf, c'est-à-dire de la grammaire et de la morphologie des mots également, qui va être une étude particulière par rapport à la langue arabe pour bien comprendre le sens dans sa forme. Donc dans la forme du texte, comme on fait en français la différence entre la forme et le fond, le contenu spécifique du texte et la compréhension de sa forme. Alors tout ce que nous avons dit par rapport à la forme et la morphologie contient en lui-même bien entendu toute cette dimension de l'étude de la langue particulièrement approfondie en matière de grammaire, puisque c'est le Coran qui est la référence. Donc ici également, par rapport à l'ensemble de ces éléments-là, l'une des premières parties, avant même la compréhension du texte, c'est l'étude de cette langue, la bonne compréhension de la langue arabe, la bonne compréhension de ces éléments de morphologie qui sont très importants, puisque la langue arabe étant une langue trilitaire, c'est-à-dire basée sur des racines verbales de trois, comme on dit fa, a, la, qui est le verbe de base et de référence souvent dans la grammaire arabe, et ben on a à partir de ces racines-là, la constitution de mots qui est particulièrement précise, la constitution aussi de la grammaire et de la place fonctionnelle de chacun des mots en fonction également de la syntaxe arabe, qui va immédiatement avoir des influences même sur la prononciation, puisque le ou a la fonction verbale, a la fonction complément d'objet, et le i la fonction de complément d'objet indirect, dirions-nous, dans la langue française, ou justement dans le complément de nom, etc. Sans entrer dans les détails, on s'aperçoit qu'ici, il y a tout un travail qui est fait également par les savants, dont nous ne pouvons pas dire plus que ce que nous disons maintenant, mais qui rappelle justement que l'approche du Coran, à partir du moment où on comprend Qur'an en arabiyen, c'est-à-dire Coran en langue arabe, de comprendre que pour le comprendre donc, il est nécessaire d'avoir une maîtrise de cette langue. Et dans les sciences du Coran, c'est une partie également importante. Nous dirons un mot tout à l'heure de la question de la traduction, puisque si c'est un Coran en langue arabe, qu'en est-il des traductions? Qu'en est-il justement de ces traductions qui ne sont jamais absolument fidèles, ni dans leur contenu, ni dans leur forme? Bien, à partir de justement cette partie de la forme et de la morphologie qui impose une approche de la forme, on va entrer dans la dimension de la compréhension du texte sur le plan sémantique. Et alors là, sur le plan sémantique, sur le plan du sens, il y a un certain nombre de chapitres que l'on trouve dans la compréhension du texte, dans ce qu'est finalement l'approche seconde, mais essentielle, de ce que nous dit le texte, donc de son contenu, de son fond. Alors, la première des démarches, alors là on a un certain nombre de chapitres, c'est la catégorisation de ces textes en fonction de l'époque de leur révélation. Alors, s'il est vrai que justement, vous allez trouver un Coran qui aujourd'hui ne suit pas l'ordre chronologique, la bonne compréhension de cette révélation impose que l'on y revienne et que l'on réussisse à déceler, plus ou moins bien entendu, les versets qui sont de l'époque mécoise et les versets de l'époque médinoise. Pourquoi ? Parce que même par rapport à la jurisprudence, cela va être important. Un verset qui fut révélé avant un autre n'aura pas le même poids et sera peut-être complété, réorienté par ce verset qui le suit. On a tout ce travail qui consiste justement à ne pas pouvoir faire l'économie d'avoir une considération chronologique dans l'étude, et c'est ce qu'a fait par exemple Suyuti dans son ouvrage, comme ce qu'ont fait ceux qui ont abordé la question de Ulum al-Qur'an. Alors, la première grande catégorisation que l'on connaît quand on approche le Ulum al-Qur'an, c'est la catégorisation en période mécoise et en période médinoise. Alors, la période mécoise, qui a duré 13 années, qui est depuis le début de la révélation jusqu'au moment où le prophète va quitter Médine avec Al-Hijra, c'est-à-dire le départ vers l'Hijra, et puis ensuite la période médinoise qui commence avec l'installation du prophète à Médine jusqu'au moment de sa mort. Et donc, ici, que voit-on ? Une première chose, c'est qu'il y a déjà une différence de nature dans les révélations spécifiques. Dans la première partie, ce sur quoi le Coran, dans sa révélation, fait l'essentiel de insiste essentiellement, ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala met focalise l'attention des croyants, c'est dans un premier temps, bien entendu, la compréhension du tawhid, c'est-à-dire de la présence de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'est de Dieu que Dieu, cette dimension fondamentale de sa présence. Avec également quelque chose qui va réveiller les musulmans par rapport à ça, et c'est beaucoup de références à Yawm al-Qiyam, c'est-à-dire le jour du jugement. C'est tout à la fois la présence, et par cette présence, la nécessité d'une responsabilité dans la vie, par le fait qu'il va y avoir un jugement. Et c'est tout évidemment qu'on va trouver également des versets qui appellent au khuluq, c'est-à-dire au comportement, à la morale, aux mœurs. Donc on a une espèce de logique interne à l'ensemble des révélations mécoises qui réveille le cœur, l'oriente vers le rapport à l'unique, l'oriente également par rapport à ce jugement dernier, et puis entre le jugement dernier et la compréhension de la présence partout où nous sommes, eh bien la nécessité d'avoir un bon comportement. Dans la période médinoise qui commence selon les chronologies attestées avec la première des sourates, qui est sourate al-Baqara, qui est révélée à Médine et qui est la plus longue du Coran et qui va aller jusqu'à la dernière sourate révélée, qui est sourate al-Ma'ida, eh bien vous avez, nous trouvons ici dans ces révélations, alors là il faut faire attention, toutes les sourates ne sont pas toutes mécoises ou toutes médinoises. Vous allez parfois dans la même sourate des sourates qui sont mécoises et des sourates et des versets qui sont mécois et des versets qui sont médinois dans la même sourate. Et quand on marque au début de la sourate, c'est une sourate plutôt mécoise, on indique les versets qui pourraient justement dans la sourate en question être soit médinoise si la sourate est mécoise, soit mécoise si la sourate est médinoise. Donc dans cette deuxième partie donc de sourate al-Baqara jusqu'à sourate al-Ma'ida, la sourate 5 du Coran, on va trouver d'autres types de révélations qui vont mettre en évidence justement tout ce qui concerne le mujtama, c'est-à-dire la société, tout ce qui concerne Ahl al-Kitab, c'est-à-dire la relation avec les gens du livre, tout ce qui concerne également les gens, tout ce qui concerne le djihad, tout ce qui concerne la classification des gens, le tasnif, c'est-à-dire également de ce point de vue-là, la catégorie des gens qu'on va pouvoir voir, ceux qui sont véritablement croyants, ceux qui peuvent être des hypocrites, ceux qui, dans leurs relations, sont en même temps des gens qui ne suivent pas le prophète alayhi salam. Donc on a, de ce point de vue-là, un autre type de révélation. Et puis, par exemple, ce qu'ont mis en évidence un certain nombre de savants, c'est que quand on entend, par exemple, dans le Coran, « Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui portez la foi », c'est en général, justement, on peut identifier par cette nouvelle formulation le fait que c'est une révélation qui est médinoise, par la formulation elle-même qui oriente justement la notion de communauté, la notion de mujtama, la notion d'organisation sociale. Donc on a, si vous voulez, quand même, au travers de ces deux périodes, des structurations qui sont différentes, des contenus qui sont un tout petit peu différents et qui sont évolutifs de la compréhension du tawhid à la compréhension de l'organisation sociale. Eh bien, il y a une évolution qui s'est faite sur ces 13 ans, puis ensuite ces 10 années de révélation à Médine. Donc, une chronologie. La deuxième des choses qui apparaît dans la compréhension du texte, c'est ce qui s'appelle « asbab al-nuzul », c'est-à-dire les circonstances de la révélation. Comme nous l'avons dit, c'est tout autant ce Coran, une parole absolue, mais qui rencontre le relatif de l'histoire. C'est-à-dire que l'on comprend le sens de cette révélation absolue au travers, souvent, de la circonstance qui a causer sa révélation. Et cela, c'est très important, c'est que on comprend ici qu'il y a de grandes règles générales dans la révélation du Coran qui ne peuvent être comprises par le musulman, qui ne peuvent être comprises par les savants, qu'au travers de quelque chose qui est à sa portée, à savoir quoi ? L'interprétation d'un fait historique qui permet, à partir de la relativité du fait historique, de comprendre l'absolu de l'enseignement. Et que c'est finalement mettre cet absolu, cette révélation à la portée de nos intelligences au travers justement de cette compréhension. Et là, on a effectivement la compréhension, la signification du verset qui peut être justement pour nous accessible par cela, la compréhension du verset au travers de sa circonstance, la raison qui va permettre à partir de la raison de cette révélation à comprendre la règle générale et qui nous permet de comprendre un certain nombre d'éléments et que par exemple il y a des versets clairement qu'on peut identifier à des interpellations du prophète à des situations spécifiques quand par exemple il a consisté à pouvoir faire et tayammum, on sait que c'est dû justement le fait de cette possibilité de faire les ablutions avec un élément sec et dur et pur, eh bien on sait que c'est dans une circonstance où Aïcha radiallahu anha avait perdu son collier, on sait que tabbat yada Abi Lahab wa tab, que les mains de Abu Lahab soient anéanties, est une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à justement le tabban laka ali hadha jama'dana de Abu Lahab quand le prophète alayhi salatu wasalam avait réuni l'ensemble des compagnons et lui dit que tu sois anéanti, est-ce pour cela que tu nous as réunis, et bien que les mains de Abu Lahab soient anéanties fut la réponse avec cette même formulation. Eh bien, on a d'autres circonstances. Ici, ce sont des éléments anecdotiques, mais on a des circonstances très très importantes par rapport à l'ensemble des éléments de jurisprudence aussi, parce que Ayat al-Ahkam, c'est-à-dire véritablement ce qui concerne la jurisprudence, les règlements, les prescriptions, eh bien, de ce point de vue-là, cette notion de compréhension de les causes de la révélation est particulièrement importante. On a également, qui va être une partie très importante, Nasir wal Mansour, c'est-à-dire l'abrogeant et l'abrogé, qui sont effectivement des éléments extrêmement importants, parce que pour nous, par rapport à cette dimension-là, elles permettent cette compréhension qu'il y a des versets qui sont effectivement abrogés. Pourquoi ? Parce que au fil du temps et au fil de la révélation, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une évolution des prescriptions coraniques qui vont aller vers plus de précision, plus de compréhension. Et justement, le Coran précise cette dimension dans le verset 106 de la sourate Al-Baqara, la sourate 2. « Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha » Et si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le faisons oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Donc en l'occurrence, il y a ce processus reconnu chez les savants que, parce que confirmé également par le Coran, c'est qu'il y a eu dans le processus de la révélation effectivement des évolutions. Et on en a des exemples patents, c'est à partir de là tout ce qui concerne l'alcool ou ce qui concerne également le riba, c'est-à-dire l'usure, eh bien, on a différents versets qui sont venus les uns après les autres préciser et celui qui venait après abroger celui qui venait avant. Si on prend par exemple les versets qui concernent l'alcool, on a la sourate 4, le verset 43, puis ensuite la sourate 2, le verset 219, puis ensuite la sourate 5, le verset 90, 4, les versets 90, 91. C'est d'ailleurs intéressant ici parce qu'on voit 4, 2, 5, donc vous voyez que ça ne suit pas du tout l'ordre dans lequel se présente le Coran, mais ça suit la chronologie, et à partir de ceci, on s'aperçoit que on ne peut pas, par rapport au Coran, et ça c'est une des choses qui demande énormément de précision, prendre le Coran comme ceci, prendre un verset, et puis supposer qu'avec ce verset on peut tout dire, ou dire n'importe quoi, n'importe comment. Non, il se peut que justement ce verset, dans ce qui est l'abrogeant et l'abrogé, et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'abrogeant et l'abrogé ne concernent pas les informations, le khabar, non, les informations sont une fois pour toutes, une, et ne non, absolument ne sont pas liés à quelque chose. Si vous voulez, une information ne peut pas être abrogée, elle est vraie ou fausse une fois pour toutes. Ce qui peut être abrogé, c'est par contre ce qui est l'awamir, c'est-à-dire les commandements et les interdictions, quand quelque chose est interdit ou quelque chose est permis, ou quelque chose est plus ou moins permis, ou quelque chose va vers une permission, ou quelque chose va vers une interdiction. C'est plutôt dans le champ, justement, comme on le voit dans l'alcool, vers une interdiction, comme c'est également le cas pour el riba, c'est-à-dire l'usure. Donc ce sont des situations de spécification qui peuvent aussi arriver pour tout ce qui concerne également les affaires sociales et les affaires qui concernent le mariage ou le décès ou le veuvage. Donc on a de ce point de vue-là quelque chose qui précise et ces trois premières parties qu'on vient de mettre en évidence par rapport à la compréhension du texte. Donc d'abord les périodes mécoises, médidoises, la question de Asbab et Nuzul, les circonstances de la révélation, Nasir ou Al-Mansour, l'abrogeant et l'abrogé, avec la bonne compréhension de leur perception, sont sans doute les éléments les plus importants par rapport à la compréhension du texte. Mais il en est beaucoup d'autres qui justement vont entrer dans la précision, dans la compréhension extrêmement pointu du texte, dans ce qui est également, dans ce que sont également les versets qui sont pour les uns compréhensibles immédiatement, ce qu'on appellera les explicites, et les versets qui sont eux sujets à interprétation. C'est ce qu'on appelle el muhkan mutashabih, c'est-à-dire ce qui est très clair parce qu'on en a immédiatement la lecture, pas d'interprétation possible. Ou el mutashabih, c'est ce qui peut justement être sujet à interprétation, comme certains font référence aux lettres qui commencent les sourates, mais également d'autres versets qui, de ce point de vue-là, demandent un rapport au texte extrêmement fin et en même temps un travail d'explication et d'analyse. Également, donc, après el muhkam ou el mutashabih, vous avez tout ce qui concerne, et bon, là aussi on a une référence coranique pour cela, mais sans rentrer dans les détails, tenons-nous-en à quelques maintenant titres de chapitres qui peuvent essayer montrer que c'est une science qui est une science extrêmement fine qui demande de ce point de vue-là un travail. On a ce qui concerne même dans les prescriptions l'âm, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble, l'khas, c'est-à-dire qui est spécifié. Donc il y a le commandement qui pourrait par exemple toucher tout le monde dans sa formulation, le commandement qui toucherait un certain nombre de personnes, ou en particulier le prophète alayhi salam, mais également, même dans la formulation, la compréhension de ce qui est le général et le particulier, comme el mutlaq ou el muqayyad, c'est-à-dire ce qui est absolu ou ce qui est limité à une situation donnée, à une circonstance donnée, ou ce qui est absolu dans son commandement, absolu dans sa compréhension. Et on trouve également, dans la lignée de ce que nous venons de voir, d'autres spécifications entre el-mandouq, ce qui est dit explicitement, les mots qui sont employés, mou el-mafhoum, ce qui est compris par l'intermédiaire de ces mots. Alors il y a plusieurs occurrences, on parle des différentes lettres qui commencent également les sourates, qui font aussi partie de ce chapitre-là. C'est-à-dire que là, on a un travail qui consiste à faire et à approcher la meilleure compréhension entre ce que les mots veulent dire et la compréhension du sens qui y est impliqué. Et là, c'est un travail extrêmement pointu également, comme on peut s'en apercevoir. Donc, vous voyez qu'ici, à partir des trois grandes têtes de chapitre concernant la compréhension du texte, qui sont effectivement les périodes, qui sont à partir de la chronologie, la signification en fonction de Asbab et Nuzul, c'est-à-dire les causes et les circonstances de la révélation, Nasir ou Al-Mansour, l'abrogeant et l'abrogé, et ensuite tout ce qui est plus spécifiquement un travail très très pointu, très très précis, Al-Muhkam, c'est-à-dire vraiment ce qui est explicite, Al-Mutashabih, Al-Am, Al-Khas, Al-Mutlaq, Al-Muqayyad, Al-Mantur, Al-Mafhum, tout ceci met en évidence le fait, et ça devrait réveiller chez un certain nombre de personnes dans leur approche du Coran, beaucoup beaucoup d'humilité, beaucoup beaucoup de précaution. Il ne s'agit pas de prendre un verset comme ceci et de pouvoir dire, quand on l'a compris à la surface même parfois de sa traduction et non pas de sa véritable étude, eh bien qu'il y a un travail très 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 conséquent de précision à faire. Il reste encore un domaine important concernant justement cette approche du Coran, c'est ce qu'on appelle les sept lectures, l'ahruf al-saba, c'est-à-dire le fait que à l'époque même de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et selon d'ailleurs ce que rapporte Ibn Abbas radiallahu anhu, Jibril alayhi salam a arrêté cette lecture et a enseigné au prophète alayhi salatu wassalam cette façon aussi de prononcer, et même par rapport à un certain nombre de mots quelques écarts de sens, de différences de sens, et qui sont celles que on reconnaît et qui vont être fixées à partir du deuxième siècle par Ibn Mujahid, reconnu en tant que tel par l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler le Sunna wal Jama'a. Ces sept lectures sont effectivement reconnues, et le prophète alayhi salam lui-même, de son vivant, s'est trouvé dans des situations où il a fallu qu'il précise justement cette dimension-là. On sait par exemple quand Omar radiallahu anhu une fois priait derrière un compagnon Hisham, qui lisait lors de la prière Surat al-Furqan à haute voix. Et puis Omar a été particulièrement troublé parce qu'il l'entendait lire d'une façon différente à celle qu'il avait apprise. Et à la fin de la prière, énervé, il est allé prendre Hisham pratiquement par le collet, l'a emmené vers le prophète alayhi salam et lui a dit: mais comment lis-tu le Coran? Et voilà comment il l'a lu. Et le prophète alayhi salam a fait lire d'abord à Omar radiallahu anhu et lui a dit: tu lis de façon correcte. Et puis ensuite à Hisham et lui a dit: tu lis de façon correcte, même dans cet écart justement de sens. Et donc on a de ce point de vue-là des variations de prononciation avec des différences mineures de sens, mais qui n'enlèvent rien justement à l'unicité de cet élève. L'exemple le plus connu, c'est celui de la Surat al-Fatiha, la liminaire, où on a deux prononciations du terme Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. Alors ces deux prononciations sont connues. Maliki Yawmiddin, ça veut dire le maître, le seigneur du jour du jugement dernier. Et Maliki Yawmiddin, cela veut dire roi. Et on s'aperçoit là effectivement qu'il y a des différences mineures. Il y a un mad d'après le mime, et dans l'autre il n'existe pas. Donc on a par exemple cet élément là par exemple on en a un autre qui est également très très connu dans Surat al-Ma'ida, au moment où on parle justement de ce qui concerne les ablutions. Dans le verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si il y a deux lectures, il y en a une qui dira Biru'usikum wa arjulakum, ce qui renvoie arjulakum à warsilu, au sens de lavez vos pieds, et si on dit arjulikum, ça renvoie à msahu. Msahu, c'est essuyer en l'occurrence, et l'autre c'est laver. Et donc ce serait soit lavez vos pieds si l'on dit arjulakum, soit essuyez vos pieds si c'est arjulikum, qui renverrait à biru usikum wa arjulikum. On voit par exemple ici, dans un cas très très spécifique, que la différence d'une lettre envoie une différence de sens, essuyer soit laver. Mais que de ce point de vue-là, ça n'enlève rien, c'est encore une fois une dimension minime par rapport au sens. On a donc ces sept lectures officialisées, donc, qui se différencient sur la prononciation d'un certain nombre de lettres et certaines différences de sens. Et puis, on a bien entendu celle qui est la plus connue par rapport à ces lectures, c'est celle qui est connue et qui s'appelle Hafs an Asim, c'est-à-dire qui vient de Koufa et qui provient du 8e siècle. On en a d'autres. Celle qui est plus répandue en Afrique du Nord, c'est celle qui s'appelle, qui est connue sous le nom de Walsh an Nafer. C'est également une lecture qui est très répandue. Et puis, il y a bien entendu les cinq autres. Tenons-nous-en à cela pour l'instant, pour simplement savoir que par rapport à ces sept lectures, eh bien, il y a un accord unanime. D'autres ont mis en évidence 14 lectures, mais celles-ci sont considérées comme étant faibles sur le plan de leur reconnaissance. On s'en tient donc dans l'orthodoxie à 7 lectures possibles, et dans cette perspective-là, reconnaissant pour nous le fait qu'il y a une unité de la révélation de ce point de vue-là, quelles que soient ces divergences-là. Le dernier point sur lequel il faut quand même que nous disions un mot par rapport à ces ulum al-Qur'an, c'est tout ce qui concerne les tafsir, c'est-à-dire l'exégèse. Alors, qu'est-ce que veut dire tafsir de fassara, c'est-à-dire la compréhension, l'explication, l'interprétation, le commentaire du Coran? Alors certains font une différence entre tafsir, le commentaire, et ta'wil, qui serait plutôt dans le sens interne, le sens caché, et qui irait parfois même plus loin pour certains et qui diraient qu'on n'a pas le droit justement d'aller chercher plus loin que ce que nous dit le texte. D'autres commentateurs disent c'est la même chose, c'est le même terme. Et de ce point de vue-là, on essaye simplement de faire en sorte à ce que ce Coran soit accessible de ce point de vue-là à l'intelligence des gens, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quelle que soit l'époque. Donc c'est une science particulièrement importante. Elle a commencé très très tôt, et le premier tafsir constitué de façon particulièrement élaboré et parfois même extrêmement détaillé, c'est celui qui est connu de Tabari, c'est-à-dire du 10e siècle, qui s'appelle Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, c'est-à-dire l'explication claire, l'explication complète, le commentaire complet, l'énoncé complet dans ce qui est le commentaire du Coran. Eh bien, lui, par exemple, et certains mettent en évidence ici le fait qu'il y a beaucoup d'influences qu'on appelle les Israiliyat, c'est-à-dire beaucoup d'influences qui sont nées aussi d'influences chrétiennes, même dans l'explication du Coran. Mais on en a au fil des siècles comme ceci, un certain nombre, jusqu'à notre siècle, des commentaires du Coran qui sont particulièrement importante, que ce soit Al-Thalabi al-Nasaburi au 10e siècle, que ce soit Ibn Kathir au 14e siècle ou Al-Suyuti au 15e, on a comme ceci des tafsirs, des commentaires qui vont jalonner notre histoire. C'est important, pourquoi ? Parce que ces commentaires ont une fonction particulièrement importante. Laquelle ? D'abord, essentiellement, effectivement, le fait d'expliquer les mots, d'expliquer les circonstances, d'expliquer le Coran, de permettre justement d'en donner le commentaire. Et surtout une chose qui paraît très importante et sur laquelle il faut véritablement que nous soyons clairs, c'est que le tafsir, il est aussi le moyen pour mettre, pour la personne qui vit à une époque donnée, dans une situation donnée, de mettre le Coran à sa portée, de ne pas en faire un texte théorique et mort, parce que le Coran, dans son universalité, dans son appel du cœur, est fait pour appeler les cœurs là où se trouve ce cœur et à l'époque où se trouve ce cœur. Et donc, ce commentaire, on s'en aperçoit, à la lecture de ces textes de référence, donne deux types d'informations. D'une part, des informations classiques que l'on doit connaître, et c'est en cela justement que les grands auteurs, les grands mufassirun nous ont aidés, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des éléments classiques, que ce soit aussi des références aux hadiths, que ce soit des références à Asbab al-Nuzul, An-Nasikh wa al-Mansukh, tous ces éléments classiques, donc tout ceci on garde, et en même temps ils apportent pour eux-mêmes et pour leur public immédiat une portée de foi, d'affection et de profondeur dans, qui circonstancie, qui contextualise cette approche du Coran. Et donc nous ne devons pas l'oublier, nous ne devons pas faire du tafsir, du commentaire, quelque chose qui soit la reproduction totale de ce qu'ont dit nos prédécesseurs, mais par contre prendre de tout ce qui fut justement les éléments, et prendre de tout ce qui sont les éléments classiques dont nous avons parlé, mais en même temps faire en sorte que ce Coran nous parle à nous dans notre époque. Et c'est ce pourquoi il s'est toujours renouvelé, toujours le tafsir a eu une nouvelle approche en fonction du temps et du lieu. Et là, c'est la responsabilité de chaque musulman versé dans ces sciences à l'époque où il vit, de mettre le Coran à la portée de la population qui le lit au moment où elle le lit, parce qu'il y a toute une dimension qui doit permettre de vivre dans une espèce de proximité, et c'est ce à quoi doit servir également le tafsir. Expliquer ce qui doit l'être sur le plan théorique, vivifier ce qui doit l'être sur le plan affectif, sentimental et spirituel. On trouve d'ailleurs le Coran qui explique certains passages du Coran. Le prophète a expliqué le Coran, les compagnons eux-mêmes ont expliqué des éléments du Coran, donc c'est une tradition qui renvoie justement au Coran lui-même, au prophète lui-même et aux compagnons radiallahu anhum jami'an. Donc cette dimension qui a toujours été présente dans la communauté musulmane doit continuer, et elle a continué. On a bien entendu des commentaires du Coran qui parcourent les siècles jusqu'à notre siècle, où on en a également un certain nombre qui sont intéressants et qui sont de référence. Donc cette science du tafsir, du commentaire, est également une des choses qui doit aussi, et il faut espérer inshallah, que par rapport à notre situation de musulmans vivant en Europe, vivant en Occident, on puisse aussi, à partir de ces commentaires classiques, mais également à la vue de notre vie, réussir à mêler ces deux perspectives, une bonne connaissance des dimensions classiques de ce que peut apporter ce Coran, mais également ne pas oublier la dimension de ce Coran qui doit être mis à portée d'intelligence humaine et de cœur humain là où ils vivent. Raison pour laquelle Hassan el-Banna radiallahu anhu avait dit une chose extrêmement intéressante quand quelqu'un était venu lui poser la question, mais quel est le meilleur des tafsir, qu'est-ce que tu recommandes? Et lui il pensait, est-ce qu'on ferait mieux de lire Ibn Kathir, est-ce qu'on ferait mieux de lire Al-Qurdubi, est-ce qu'on ferait mieux de lire un tel ou un tel? Et Hassan el-Banna de répondre de façon extrêmement simple, pour qu'il réfléchisse justement à ce sens-là, il lui a dit « qalbuk », c'est-à-dire « ton cœur ». Ton cœur, c'est ton cœur qui va être le premier rapport que tu vas avoir avec le Coran. Il ne voulait pas dire par là qu'il faille négliger tous les autres, mais la première dimension du Coran, la première fonction du Coran, c'est de rappeler et d'éveiller, et donc il ne faut pas oublier cette dimension-là. Pour nous également, et nous conclurons avec cela par rapport à ce cours d'introduction au Ulum al-Qur'an, eh bien, il y a la dimension également de la traduction. Alors, bien entendu, puisqu'il est dit que le Coran a été révélé dans une langue arabe, le Coran est essentiellement, est par nature, est par essence en langue arabe. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette langue, c'est par la particularité de cette langue, dans sa richesse, dans sa force évocatrice, dans effectivement la précision de son vocabulaire et son étendue. Et puis, à partir de là, il est possible, bien entendu, de produire des traductions, et ces traductions permettent, quand on ne les confond pas, bien entendu, avec ce qu'est le Coran, d'approcher le sens, d'approcher la dimension spirituelle. Elle ne dit pas tout, elle ne traduit pas tout, cela reste une interprétation, et c'est pourquoi beaucoup de traducteurs ont raison de relever une tentative d'interprétation, ou le message du Coran, pour ne pas dire le Coran, parce que le Coran, dans son sens, est lié à cette langue arabe. Mais les traductions permettent d'avoir une approche finalement extrêmement profonde pour qui les étudie, du texte, à partir du moment où on en comprend le sens, à partir du moment où maintenant il y a des commentaires de ce texte qui sont mis à la portée des musulmans, qu'ils soient anglophones ou qu'ils soient francophones. Donc la traduction est un bon outil d'approche. Elle n'est pas à confondre avec le texte original, mais elle permet effectivement un approfondissement, une bonne connaissance. Et de ce point de vue-là, il est bon quand même d'essayer de faire un effort par rapport à la langue arabe pour l'approcher, mais dans une circonstance où la langue arabe n'est pas maîtrisée, eh bien, l'approche au travers de la traduction est possible. Dès qu'on a à l'esprit que ça reste une interprétation, dès qu'on a à l'esprit qu'il faut beaucoup travailler ces traductions et beaucoup chercher, et puis après d'en s'en tenir à quelques traductions de référence. C'est vrai que dans la langue française, nous avons le travail de 3 ou 4 personnes qui peut-être sortent du lot. Il y a beaucoup eu de traductions en langue française. On peut se référer par exemple à l'une qui réussit peut-être à mêler le mieux l'aspect poétique et l'aspect de rigueur sémantique, c'est la traduction de Denise Masson qui est revue par Dr Subhi Saleh rahimahullah, qui a fait un bon travail également de précision ici. Mais bien entendu, il y a quelques erreurs très pointues dans un certain nombre de traductions. Il y a, sur le plan de la volonté d'en rester à la lettre, la traduction du professeur Hamidullah, Hafizahullah, et qui a fait un bon travail également, mais qui, justement, par rapport à la langue française, pose parfois des problèmes de compréhension. Mais alhamdoulilah, ça permet aussi là d'avoir un travail peut-être plus de précision. Avec une autre traduction, on peut compléter et comprendre mieux le sens. Il y a les commentaires de l'ancien recteur de la mosquée de Paris, Boubaker, qui a fait un travail d'exégèse. Alors, plutôt que la traduction immédiate, on peut lui savoir gré, rahimahullah, d'avoir fait un travail où il donne un certain nombre d'informations qui sont intéressantes, et pour certaines, on peut les prendre en considération. C'est un travail également qui est utile, et il en est d'autres, bien entendu, comme la traduction du docteur Salahuddin Keshrit, qui lui également a fait un travail de traduction, parfois avec des formulations qui dans la langue française donnent l'impression d'être sèches et tranchantes. Wallahu a'lam, toutes ces et bien d'autres traductions sont intéressantes, on n'a pas le temps ici de les citer, mais pour nous, cette démarche de la traduction par rapport aux sciences du Coran, pour les francophones, doivent être de ce point de vue-là étudiés, approchés, à partir du moment, encore une fois, on ne les confond pas avec le texte fondateur, mais que l'on sait aussi que certaines traductions ont cette beauté, qui ont réveillé des cœurs, qui ont appelé des gens à mieux comprendre leur religion, qui ont appelé des gens à reconsidérer leur position, même par rapport à l'islam. Walhamdulillah. Voilà pour ce premier cours. Nous continuerons, inshallah, avec Ulum al-Hadith. Et de ce point de vue-là, cela nous permettra d'avancer, tout en comprenant qu'il ne s'agit là que d'introduction et non pas de science totalement maîtrisée. Il faut encore des cours et des cours pour pouvoir, pour chacun des chapitres étudiés, aborder sa complexité et comprendre ses fondements. Wallahu a'lam, wallahu musta'an, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.